avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Un mois, donc, que Donald Trump est à la Maison Blanche et il a mis à exécution plusieurs de ses promesses électorales en multipliant la signature de décrets. Il a notamment affaibli l'Obamacare, l'assurance santé pour tous. Il a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique. Il a interdit le financement d'associations qui pratiquent l'avortement à l'étranger. Il a également validé deux projets d'oléoduc qui avaient été abandonnés au nom de la protection de l'environnement. Mais le décret le plus contesté a été celui interdisant l'entrée de ressortissants de 7 pays musulmans. Le texte a certes été suspendu par la justice, mais Donald Trump n'entend pas baisser les bras. Un nouveau décret sur l'immigration doit être rendu public cette semaine, peut-être même aujourd'hui. En un mois, à la Maison Blanche, le nouveau président américain s'est brouillé avec le premier ministre australien, il s'est mis à dos le président américain, il a suscité l'inquiétude auprès des dirigeants européens, et avec la Russie, eh bien finalement, on ne sait plus si Vladimir Poutine est son ami ou son ennemi. Que dire d'autre? Eh bien, les mensonges. Lui et son administration ont plusieurs fois été pris en flagrant délit de mensonges ces quatre dernières semaines. Bref, que retiendrez-vous donc de ce premier mois de Donald Trump à la Maison Blanche? Diriez-vous qu'il est à la hauteur de sa fonction? Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Si vous êtes en France, évidemment, vous composez le 09 693 693 70. Vos réactions également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Il y a Fernand, par exemple, qui nous dit « Donald Trump ne fait que réaliser ses promesses électorales. Il avait promis la fermeture de la frontière USA-Mexique, d'interdire l'accès aux musulmans sur le territoire américain. Alors pourquoi se plaindre une fois qu'il est à la Maison Blanche ?» Auguste nous dit « N'oublions pas, après tout, qu'il a été élu par les Américains sur la base d'un programme conçu pour les Américains. » Bonjour Sori.
Bonjour Juan, bonjour à vos auditeurs.
Vous êtes en Guinée, bienvenue. Que pensez-vous de ces quatre premières semaines de Donald Trump?
Je pense simplement qu'il a été un homme conséquent avec lui-même. Au fait, Donald Trump a été élu sur la base d'un programme qu'il a vendu aux Américains, auxquels les Américains ont adhéré. Depuis qu'il est arrivé à la Maison Blanche, il ne fait que mettre en œuvre son programme de société qu'il a vendu auprès des Américains.
Quitte à bafouer la Constitution, et là je pense aux décrets anti-immigration, certes suspendus par la justice, mais nombreux sont les juristes qui qualifient ce décret anticonstitutionnel.
Le problème n'est pas là. Sur la forme, Donald Trump est toujours discutable. Mais il a toujours été discutable sur la forme, même pendant les primaires. Au fait, Donald Trump a toujours été à l'antipode de la procédure normale. Mais les Américains lui ont élu en toute connaissance de cause. À mon avis, il n'y a pas raison de se plaindre. Cet homme enfin, est pas... conséquent avec lui-même.
Oui, mais enfin, vous dites qu'il n'y a pas de raison de se plaindre. Les Américains l'ont certes élu. En même temps, les Américains ne jurent que par leur Constitution. Et le premier amendement de la Constitution exclut, je cite, « toute forme de discrimination religieuse et ethnique ». Excusez-moi, pour le coup, ce fameux décret visant les ressortissants de sept pays musulmans viole la Constitution.
Je suis d'accord avec vous, Juan. C'est-à-dire, si vous regardez la forme que Donald Trump utilise et qu'il a toujours utilisé, même pendant les primaires ou sa candidature, il a toujours été quelqu'un qui va au-delà des règles. Mais là n'est pas le problème. Revenons sur l'affaire de l'immigration. Il a dit à ses ressortissants de ces pays qu'ils ne viennent pas aux États-Unis. Mais il n'a pas dit que ces ressortissants ne vont pas vivre dans leur pays. À mon avis, les dirigeants de ces pays, au lieu de se mettre à critiquer cette décision, devait plutôt susciter une prise de conscience nationale. Parce que pourquoi les gens immigrent aux États-Unis? Ils immigrent globalement pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils sont à la recherche de certaines formes de liberté qu'ils n'en ont pas dans leur pays, ou ils sont à la recherche d'un bien-être.
Ouais. Enfin, en même temps, les pays, excusez-moi, les pays cités, les sept pays, il y a la Syrie, on sait bien que voilà, il y a un conflit, des milliers de morts, le Soudan, là aussi la situation est chaotique, la Somalie, encore des attentats le week-end dernier, la Libye, on en parlait tout à l'heure avec Ouda Obrahim en première partie d'émission, c'est le chaos total. Bon voilà, en Libye il y a pas de dirigeant, en Somalie il y a un président mais qui n'a quasiment pas de pouvoir, voilà, donc c'est bien beau de formuler des critiques à l'égard des dirigeants des pays figurant sur cette fameuse liste.
Je suis d'accord avec vous, Juan, que dans ces pays-là, il y a des situations particulières. Mais vous croyez que c'est du ressort des États-Unis de rendre ces situations meilleures? Non. Je dis, c'est à ces pays de réunir les conditions nécessaires pour rendre ces pays vivables. Ouais. Ce n'est pas de la responsabilité de Donald Trump ou des États-Unis de rendre ces pays vivables. Il faut que les gens arrêtent de... En fait, Donald Trump a été élu par le peuple américain, il sert le peuple américain, il exécute un programme qu'il a vendu au peuple américain, auquel le peuple américain a adhéré. Point barre.
Ouais, point barre, d'accord. En même temps, les raisons invoquées pour ce fameux décret étaient la sécurité nationale. Restez en ligne, Sori. On a bien compris, on a bien entendu vos arguments. Oumed, vous êtes en France. Bonjour Oumed.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de Radio France Internationale. Je, sans plus tarder, je réagis immédiatement à ce que disait Souris à l'instant par rapport à l'élection de Donald Trump. C'est vrai que c'est les Américains qui l'ont élu, il a vendu son programme aux Américains, mais les Américains n'ont jamais dit qu'ils allaient le laisser violer la Constitution américaine, dont le premier amendement dont vous avez fait allusion. Maintenant... c'est de la poudre aux yeux également. Bon, la Somalie, l'État n'existe plus. Et il a cité entre autres la Somalie, le Yémen, le Soudan et l'Irak, la Syrie, tous ces pays en guerre. Bah, comment les Somaliens peuvent-ils venir ? Ni les Somaliens, ni l'État n'existe plus au Yémen, ni en Somalie. Mmh. Et puis bon, c'est la déliquescence partout. Maintenant, en tant que musulman, surtout... je tiens à souligner une chose. Je suis musulman de confession, je ne suis pas le ressortissant des pays en question, mais je suis révolté. J'avais une grande admiration pour ce pays, pour le peuple américain. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le souligner ici. Il y a 8 ans avec l'élection d'Obama, j'ai salué la démocratie américaine, la maturité du peuple américain. Maintenant... les Américains ne l'ont pas élu pour le laisser renfermer l'Amérique sur elle-même. L'Amérique est faite, le pays lui-même est fait de l'immigration. L'histoire des États-Unis d'Amérique repose sur l'immigration. Maintenant, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Je suis musulman, je suis fier de l'être. Je voulais aller aux États-Unis, mais j'ai renoncé au voyage aux États-Unis. Je n'irai jamais aux États-Unis tant que Donald Trump sera là. Pour moi, c'est un xénophobe, c'est un raciste.
Pourtant, Donald Trump lui assure qu'il ne s'agit pas d'une interdiction visant les musulmans. Ça n'a rien à voir avec la religion, a-t-il dit une fois de plus sur Twitter, puisqu'il communique essentiellement par Twitter. Il s'agit de terrorisme et de la sécurité des États-Unis.
Tous les Somaliens ne sont pas des terroristes, en commun, tous les Soudanais non plus, tous les Irakiens non plus ne sont pas des terroristes. Parmi les ressortissants de 7 pays qu'il a cités, ne sont pas tous des terroristes. Ça fait des dizaines de millions d'individus. Quand on rassemble tous les ressortissants de ces 7 pays en question, tous ces dizaines de millions de personnes sont des terroristes. Alors là, dans ce cas-là, il n'a rien compris.
Bon.
Les musulmans, pour moi, les mesures, bon, les déclarations fracassantes, abracadabrantesques, les mesures totalement incompréhensibles, le monde entier s'en est ému de ces mesures. Maintenant, je ne sais pas comment Souris veut justifier. C'est vrai que c'est les Américains qui l'ont lu, mais les Américains sont suffisamment intelligents.
On va donner la parole à d'autres auditeurs. Oumed, voilà. Merci de nous avoir appelés. Je remercie Souris également qui nous a appelé. Un détour sur la page Facebook de l'émission. Amadou nous dit Donald Trump s'est heurté à la réalité du pouvoir. Être président est plus compliqué que de faire campagne. En tout cas, pour son premier mois, Donald Trump a connu un revers. La suspension par les juges de son décret anti-musulman originaire de certains pays. En même temps, je vous le disais tout à l'heure, Donald Trump a bien l'intention de présenter peut-être même aujourd'hui, en tout cas d'ici la fin de la semaine, un nouveau décret sur l'immigration. On suivra tout ça de près, évidemment, avec notre correspondante permanente à Washington, Anne-Marie Capomaccio. Qui avons-nous au standard ? Parce qu'on me parle en même temps. Voilà, on a Willy qui nous appelle de Paris. Bonjour Willy.
Oui, bonjour Juan, et bonjour à vos auditeurs.
Vous êtes choqué, vous, par la façon dont Donald Trump traite les médias ?
Absolument, absolument. Juan, nous sommes dans une ère de communication actuellement. D'ailleurs, il en fait beaucoup d'utilisation lui-même. Et je suis absolument estomaqué de voir de quelle manière le président des États-Unis, le plus puissant du monde, traite les journalistes, sachant bien que les journalistes représentent un des pouvoirs parmi ceux qui régissent un pays. Je peux difficilement le comprendre. Et je me demande d'ailleurs... À quel moment les journalistes américains ou ceux qui sont souvent invités à ces conférences prendront la résolution de le laisser dans une salle de conférence tout seul avec ses conseillers sans qu'ils puissent intervenir, parce que chaque fois qu'ils sont sur scène, eh ben, le président les agresse, il les insulte, il les traite de menteurs.
Voilà, il les accuse de mentir alors que lui-même ment. Et le premier mensonge, vous en souvenez certainement, Willy, et tout le monde s'en souvient, c'était la polémique autour des chiffres de l'investiture de Donald Trump. Plusieurs journaux américains avaient publié, je crois que c'était le New York Times d'abord, deux photos comparant la foule 9 ans plus tôt pour Barack Obama et la foule donc le 20 janvier dernier pour Donald Trump, et il n'y avait pas photo, il y avait nettement moins de monde pour assister à l'investiture de Donald Trump, et du coup il a accusé les médias de mentir, alors que voilà, la photo est là pour prouver, c'était un mensonge flagrant.
Et honte, et les populations du monde entier doivent s'élever contre cela, et nous n'avons pas d'autre moyen que de faire confiance aux journalistes qui ont la possibilité de se montrer indispensables au développement de ce pays et au développement même de la politique de ce président, de manière à ce qu'un jour, s'il se retrouve dans une salle de conférence, rien qu'avec ses conseillers et ses affidés, oui, sans des journalistes, je pense qu'il prendra conscience.
Pendant que vous parliez, j'ai retrouvé cette petite phrase de Donald Trump, les journalistes font partie des êtres humains les plus malhonnêtes de la Terre. Fin de citation. Merci Willy. Bonne journée en région parisienne. Mamadi sur Facebook nous dit « Il faut reconnaître que Donald Trump est un homme de parole. Il met à exécution ses promesses électorales. » Bonjour François.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous nos auditeurs de RFI.
Vous êtes à Libreville au Gabon. Trump est sur la bonne voie, disiez-vous, au standard.
Oui, sur le plan économique, je trouve que s'il respecte bien les stratégies liées au protectionnisme, il est, je pense, sur une très très bonne voie. Pour moi, déjà le fait qu'il pense déjà sortir du traité transpacifique, donc de ce qu'ils appellent en anglais le TPP, pour moi, ce serait une occasion de voir si véritablement les Américains sont des bosseurs, si vraiment ils sont compétitifs et productifs. Pour une raison simple, c'est vrai qu'on va nous dire que c'est le libéralisme qui crée la croissance, mais le protectionnisme aussi crée la croissance, seulement ça dépend des types de mécanismes qui sont utilisés. Et lui, je pense que si on lui laisse un peu de temps déjà, on verra quel type de mécanisme va-t-il utiliser. Moi, je pense que ce serait une occasion, Juan Gomez, oui, pour que Donald Trump remette les Américains au travail.
Oui. Donc c'est une bonne chose pour vous, François, c'est une bonne chose pour vous qu'il fasse pression sur les entreprises en leur disant écoutez, si vous voulez vendre aux entreprises, notamment américaines, si vous voulez vendre vos produits sur le territoire américain, eh bien, fabriquez-les chez nous et non chez le voisin mexicain. Et si vous les fabriquez chez le voisin mexicain, eh bien, vous paierez de lourdes taxes à la frontière.
Exactement. Et je pense que il n'invente rien. Déjà, ce système-là a été connu dans les années 80, avec l'ouverture des marchés, etc. C'est pour ça que les gens sont sortis de ce système-là. Oui. Mais ce système-là, aujourd'hui, pourra permettre aux gens de trouver de l'emploi, pourra remettre les Américains sur le plan économique, et voir aussi, ça permettra de jauger la puissance économique américaine sur le plan mondial. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient toujours autour d'un groupuscule de pays, et là, l'Amérique faisait la suprématie. Et ces regroupements, parfois, c'était pour lutter face à la puissance chinoise. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va maintenant voir si les Américains sont
d'accord et aller au travail. On verra. On est qu'à 30 jours. Je crois que c'est le quotidien français Libération qui titrait l'autre jour encore 1400 et quelques jours. J'ai plus le chiffre en tête. On verra si Donald Trump tiendra parole. Rappelez-vous, il a dit qu'il sera le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. C'était un slogan de campagne. Et pourtant, quand il a tenu ses propos, il n'était plus en campagne électorale. 33 9 693 693 60 10. Welcome nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour Welcome.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons. Que retenez-vous des 30 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche?
Rien de concret. Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurisme et un brin de vengeance dans la manière de faire de Donald Trump. Je prends l'exemple de l'Obamacare. On ne peut quand même pas décider de mettre fin à un système de santé visant à réduire les inégalités en rendant universel l'accès aux soins simplement parce que celui-ci coûterait cher et sans toutefois proposer un plan concret susceptible de remplacer l'Obamacare. Je pense que M. Trump a tendance de gérer la chose publique de la même manière qu'il gère son business. Hein, il a du mal ici à s'accommoder à la gestion de l'État. Et ben voilà, je me pose même la question de savoir le rôle que devrait jouer ou que jouent ses conseillers autour de lui.
Et en même temps, supprimer l'Obamacare faisait partie véritablement de son programme électoral. Les Américains ont voté, notamment pour la suppression de l'Obamacare. Alors, il y a eu un décret, mais ce décret ne balaye pas d'un revers de la main l'Obamacare. Hein. Il faut passer par le Congrès, c'est un peu compliqué, ça va prendre quelques mois, ça va être un tout petit peu long. Mais en tout cas, il affaiblit effectivement l'assurance santé pour tous mise en place par Barack Obama. Lui, il promet un système plus efficace et moins cher. Bon, ça le mérite.
Un système plus efficace et moins cher, sans toutefois qu'il nous fasse bien entendu la proposition de ce qu'il veut. Et c'est là tout le problème. Il ne fait aucune proposition. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit au début, a tendance à gérer, s'inscrit plutôt dans un élan de vengeance. Quand je parle d'élan de vengeance ici, non seulement contre l'établishment, mais aussi contre la politique d'Obama. Parce que pour lui, je prends le pouvoir et je dois balayer d'un revers de la main tout ce qu'Obama a laissé et voir dans quelle mesure... Et être entouré, bien entendu, des hommes d'affaires. Comment reconstruire un nouvel État, donc c'est celui des États-Unis. Il fonce tout. Je pense qu'il est en train de passer à côté de la plaque. Et c'est un mois, vous le constaterez, comme moi, nous a servi un bilan triste.
Bon, en tout cas, vous êtes déçu. Lui a adressé une sorte de bilan à sa façon samedi lors d'un meeting en Floride. Je reprends ses propos. La Maison Blanche fonctionne sans accroc, sans heurts, et croyez-moi, a-t-il dit au public présent en Floride, j'ai hérité d'un grand bazar. Fin de citation. Welcome, bonne journée à Pointe-Noire. Qui avons-nous, David? Alors, on va David à Ouagadougou, et tiens, ça va me permettre, en accueillant David, de rappeler à tous ceux qui nous écoutent dans la capitale du Burkina Faso que nous serons la semaine prochaine, mercredi, donc dans tout juste une semaine, à l'Institut français de Ouagadougou pour l'enregistrement de deux émissions. On parlera d'abord cinéma à l'occasion du FESPACO. On a envie de vous entendre sur la production africaine, comment promouvoir le cinéma africain. On en débattra avec plusieurs invités et vous verrez, on vous promet une belle affiche d'invités. Et puis en deuxième, le deuxième débat, dans la foulée, toujours mercredi après-midi à l'Institut français, nous dresserons ensemble un état des lieux de la situation du Burkina Faso. On verra ce qu'il reste de cet espoir suscité par la chute du régime Compaoré et par l'élection du président Kaboré. Là aussi, plusieurs invités politiques, notamment Achille Tapsoba du CDP, Guy Hervé Cam, porte-parole de Balais Citoyens et des membres du gouvernement. Donc soyez nombreux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais venez, voilà, nombreux, mercredi prochain entre 15h et 18h pour l'enregistrement de ces deux émissions. David, vous êtes à Ouagadougou, bonjour.
Oui.
J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer mercredi prochain. Vous, que retenez-vous des 30 premiers jours de Donald Trump?
Oui, avant tout, j'aimerais vous dire qu'on vous attend à Ouagadougou impatiemment.
Bon, bah écoutez,
la réalisation de cette émission.
Très bien, merci David. On vous écoute.
Voilà, je dirais que les 30 jours de gouvernance de Donald Trump, on a l'impression que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, c'est une gouvernance non maîtrisée, et moi, en tant qu'Africain, ce qui me choque, c'est sa gestion de l'immigration. Hein, on a l'impression, comme le disait mon prédécesseur tout à l'heure, il a une dent, je dirais, prononcée contre les Africains.
Oui, enfin pas seulement contre les Africains, certes dans la liste des 7 pays cités dans son décret figurent des pays africains, mais de façon générale, c'est ce que pensent ses détracteurs, contre les musulmans, même si lui s'en défend.
Oui, et moi en tant qu'Africain, je le disais tout à l'heure au standard, et moi j'ai le frère qui est aux États-Unis, qui est sans papier, j'ai dit je suis inquiet.
Ouais.
Ah, tout fait arriver à tout moment.
Ouais. Le réseau se dégrade, mais c'est vrai que l'immigration clandestine est dans le viseur du gouvernement Trump avec de nouvelles mesures annoncées hier soir. Merci à vous tous de votre fidélité. Merci de vos appels. Godet était en attente, me dit-on, pour passer à l'antenne. On vous rappellera évidemment prochainement. Nous dresserons demain un état des lieux du secteur scolaire en Afrique avec en toile de fond les mouvements de contestation qui paralysent écoles et lycées dans plusieurs pays. C'est le cas en ce moment au Gabon, en Guinée, où les cours sont censés reprendre aujourd'hui après deux semaines de grève. Le malaise est également palpable au Togo, au Cameroun, au Tchad. Bref, vos témoignages nous intéressent.